Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Mes années boom, c'est une série dont vous allez entendre aujourd'hui le dernier épisode. La fin, en tout cas l'épilogue. Mes années boom, c'est une enquête criminelle en Algérie, 40 ans après les faits. Donc vous ne serez pas surpris ou déçus, j'espère, si ça ne finit pas avec le meurtrier menotté aux mains, suivi d'une petite scène de détente, avec l'enquêteur satisfait qui fait une bonne blague. Cela fait pourtant 2 ans qu'Adila Benedjaizou est partie à la recherche du meurtrier de son père, qui travaillait dans une ferme agricole gérée par des militaires dans l'ouest algérien, à Bouzfer. Au cours de 2 voyages sur place, elle a suivi toutes les pistes possibles, remonté les fils, fait des déductions et des hypothèses, recoupé les infos et questionné toutes sortes de personnes plus ou moins disposées à rouvrir un dossier pas très net. Enterré dans la mémoire des années boumédiennes, le président de l'Algérie de 1965 jusqu'à 1978. Au cours de son 2e voyage, elle est même repartie accompagnée de sa mère et de son père, enfin son papa, celui qui l'a élevée en vrai. Mais en dehors de quelques souvenirs pas très gais et partis de rigolade d'un trio de détectives pas banal, l'enquête n'a guère progressé. À la fin, Adila a fini par aller chercher dans la famille de sa mère, dans l'histoire de la rencontre de ses parents et celle de sa naissance, s'il n'y avait pas quelque chose à apprendre. Au début de l'épisode d'aujourd'hui, vous l'entendrez donc retourner voir la femme qui a élevé sa mère et ne lui a plus jamais reparlé depuis 44 ans. Si l'expression n'était pas galvaudée, je dirais que, au fond, c'est une quête plutôt qu'une enquête. Et qu'en chemin, on a visité tout un pan de l'histoire algérienne, pénétré dans les secrets de 2 ou 3 familles maghrébines et vu de près ce que c'est que l'omerta dans l'armée, le silence obstiné d'une institution toute puissante. En même temps, se dire que tout ceci n'était qu'un prétexte ne serait pas juste. Car à France Culture, nos enquêtrices sont sérieuses, obstinées, tenaces. Donc au moment même où la série touche à sa fin, où le temps presse, où il faut raccrocher, conclure, voici qu'une nouvelle piste surgit, une rencontre avec une professionnelle, un nouvel horizon, et c'est reparti, il y a de l'espoir, c'est jusqu'à 14h. Mes années boom, épilogue 3, épisode 10, c'est tout de suite sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Ça fait 2 jours que je n'ai pas dormi. Je vois la photo de ta mère. J'ai resté toute la journée. Adila, elle était jeune. Adila, elle avait 2 ans. Maintenant, elle devient comme ça. Adika. Même sa photo, je l'oublie. Parce que j'ai coupé toutes les photos qu'il y avait là-dedans. Allez.
Vous avez déchiré toutes ces photos?
Oh, je n'ai pas laissé. Même son père, quand il était. Déchire, déchire. C'est fini, Hatika, c'est fini. Astaghfirullah.
Ça faisait déjà un bon mois où tu n'arrêtais pas de dire « Maman, papa est mort. Maman, papa est mort. »
C'était l'année de... L'Aïd el-Kébir, c'était l'Aïd du sacrifice.
Comme quoi, la sensation de mort rôdait autour de nous.
Il a été assassiné chez lui.
Les responsables, c'était des militaires, c'était pas des civils.
Ça n'a pas à voir avec ton passé, ça a à voir avec une partie de ton histoire qui est tronquée par ma volonté.
C'est extrêmement difficile de dire « je ». Parce que tout ce que nous avons vécu, nous l'avons vécu dans le collectif.
L'armée fait partie de la nation, fait partie du
peuple. Je crois qu'il y a un moment où il faudrait que tu t'arrêtes. Parce que ça va devenir dangereux pour toi, même 40 ans après.
Ça s'est passé comment, vous vous souvenez?
C'est tellement loin. Tellement loin.
Si, non, ça pardonne pas.
Dieu seul le sait.
Ouais, Dieu seul le sait. Dieu et l'assassin.
Et l'assassin, voilà.
J'enlève mes chaussures.
Je suis revenue voir ma grand-mère à sa demande. Et dès que j'ai passé le pas de sa porte, j'ai compris que s'il existe une chose telle que la conscience, il est évident que la sienne n'est pas tout à fait tranquille.
Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'est-ce qui était si important à me dire?
Elle a fait une grande erreur. Grande, grande, grande faute.
Pourquoi elle a fait une erreur? C'est quoi une erreur?
Elle était enceinte de toi.
Ah.
Une erreur grave. chez nous grave.
Oui, mais quand on aime sa fille, on lui pardonne.
Si, non, ça pardonne pas.
Mais c'est pas la première fois, même chez vous, ça arrive que des filles, elles tombent enceintes. Si elles se marient, après, on passe l'éponge.
Mais vous vous rendez compte, ils disent, « Ah, t'es capable, tchouf !»« Oh, ah, t'es capable, elle attend bébé !»« Oh, tout le monde !»
D'accord.
On ne peut pas voir les voisins. Dès qu'elles vont, je me baisse la tête. Sans père aussi.
Mais l'erreur, on est bien d'accord, l'erreur, c'est moi.
Comment on dit ? C'est pas de votre faute, ma fille. C'est la faute des deux.
C'est la faute de mes parents. Mais
le père et la mère.
Ouais, mais en fait, moi, c'est parce que moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est que elle a fait une chose très grave. Ça, vous me l'avez dit. Mais après, elle a réparé un peu puisqu'elle s'est mariée avec l'homme avec qui elle a fait cette erreur. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est que le jour où elle s'est retrouvée veuve, seule, avec une petite fille et un petit garçon dans son ventre, vous n'avez pas eu pitié d'elle ?
Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de son père. Ah. Ce n'est pas de ma faute, moi je n'ai rien dit. Mais en pardon, mais le Dieu pardonne pas, ça c'est grave chez nous. On a peur de Dieu, mais on n'a pas peur pour les gens. J'ai peur pour B.
Vous avez peur de Dieu, mais vous n'avez pas peur des gens. Bon, en fait, vous vous êtes occupé d'elle parce que vous avez peur de Dieu.
Bien sûr.
Hey. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dedans pour ma mère ? Est-ce que tu veux dire un message pour ma mère là-dedans ?
Je lui dis, si elle veut venir chez moi, si elle veut venir chez son père, je lui dis en arabe.
Oui,
ça ne fait rien.
Ouais.
حبيتي مرحبا وسهلا ما نشدش عليها عتيقه كي البارح كي اليوم اخت ولادي.
La traduction de ce que ma grand-mère vient de dire, c'est si tu veux venir, la porte est ouverte. Hier comme aujourd'hui. Tu es la sœur de mes enfants. Je suis au seuil de la mort. Elle parle d'oubli et de pardon mutuel. Je ne saurais dire si tout ça est sincère et surtout je comprends maintenant que tout ce qui vient ne me concerne plus. Ce qui est pratique avec les gens qui sont vivants, c'est qu'ils peuvent décider tout seuls d'exiger réparation des injustices qui leur ont été faites. C'est tout à fait différent pour les morts, ce qui me fait revenir au cas de mon père. Ce n'est pas que je veuille rétablir la justice, non, j'aimerais juste savoir ce qui s'est passé. Et cette fois-ci, pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis adressée à la meilleure spécialiste de ce genre d'enquête.
Et je vois sur la carte, là, que vous tirez des fils, vous avez des petites punaises.
Ça correspond, oui.
À chaque fois sur la carte, vous avez mis plus l'endroit où on a trouvé la victime.
Oui, à peu près où les faits se sont passés. Dans les séries, ce qui est en bleu foncé, c'est les victimes que j'ai au cabinet. Par exemple, ce qui est bleu clair, c'est les dossiers que je n'ai pas.
D'accord.
Mais que je surveille. Okay. Parce que ces dossiers me semblent avoir un sens par rapport à ce que je fais. Et les violets, c'est ce qu'on a résolu.
Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'elle. Dans la presse, elle est surnommée la spécialiste des cold cases, l'avocate des affaires classées, l'avocate profileuse. Et ses recherches ont permis d'arrêter une dizaine de tueurs, dont le célèbre Émile Louis, dont elle dit qu'elle n'a jamais oublié le regard.
Quand vous parlez de cette série, vous avez montré ça, la tableau des meurtres disparus de la 26.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui, parce que les journalistes les ont appelés comme ça, disparus oubliés de la 26, les disparus de la 6 et les disparus de l'Isère. Et d'accord. Pourquoi ils les ont appelés comme ça ? Parce que depuis les disparus de Lyon, toutes mes séries, les journalistes les appellent les disparus.
Vous pensez sans doute que je vous parle d'une héroïne de série télé, mais Corinne Hermant existe. Et quand elle a accepté de me recevoir, je me suis dit que j'avais une chance de bien finir la mienne de série.
Et parfois, un dossier qui est parallèle, qui n'a pas été résolu quand on me le propose, je vais le prendre automatiquement sans me poser de questions.
La seule limite au talent de maître Corinne Hermant, c'est qu'elle ne travaille qu'en France. Mais après tout, un meurtrier reste un meurtrier, quelle que soit la rive de la Méditerranée. Et puis je tourne tellement en rond que j'ai décidé de profiter de ses conseils avant mon ultime voyage.
Et si je voulais vous demander une consultation, ça voudrait dire... Donc, en fait, comme il n'y a pas de dossier, il faudrait que j'écrive. Faudrait c'est que ça, tous les éléments que
alors,
j'ai.
Alors, il faut que vous fassiez le travail d'écrire l'histoire.
Ouais.
C'est-à-dire, mais vous l'avez fait dans l'émission, il faut
je
que je l'écoute.
Je l'ai fait dans l'émission,
donc, je vais déjà
l'écouter. Mais il y a plein de choses.
Mais il y a plein de questions, je vais vous poser déjà là-dessus. Et il faut que d'un côté, vous m'écriviez ce qui est objectif, que vous avez, qui est sûr, qui est objectif, qui est l'histoire. Et de l'autre côté, il faut écrire ce que vous pensez, ce que vous avez analysé, comment vous voyez les choses.
D'accord.
Voilà. Les éléments que vous auriez voulu trouver, mais que vous n'avez pas encore.
D'accord.
Qui pourraient aller dans ce sens-là. Donc on va avoir deux choses différentes.
Je ne vous infligerai pas de réécouter les épisodes de cette enquête, donc voici un bilan de ce que je sais et ce que je pense après près de 2 ans de recherche. Je sais peu de choses. Je sais que mon père est mort assassiné entre le 10 et le 15 décembre 1975. Je sais qu'il a été retrouvé dans sa maison fermée à clé. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont enquêté sur sa mort ont essayé de cacher le fait qu'il s'agissait d'un crime. En revanche, je pense plein de choses. Je pense que son assassin a un lien avec les militaires qui ont enquêté sur sa mort et qu'il a influencé cette enquête. Je pense que parmi les personnes que j'ai rencontrées, certaines me mentent, d'autres ne me disent pas tout. Je pense qu'une ou des personnes savent la vérité sur cette affaire et que je n'ai pas su les trouver. Et je pense que l'Algérie n'est pas le meilleur pays au monde pour essayer de résoudre un meurtre non élucidé.
Ça n'est pas possible que quelqu'un puisse disparaître ou être tué sans qu'il y ait quelqu'un qui sache quelque chose.
Et qu'est-ce que vous pourriez me conseiller de manière générale sur un cas comme celui-là ?
Comme le vôtre ?
Ouais.
Sur les dossiers, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher tout le reste, même l'historique. C'est-à-dire de retravailler sur l'historique d'une région pour comprendre un peu comment les gens se déplaçaient, ce qui se passait dans cette région, pourquoi ce meurtre arrive à ce moment-là, reprendre la presse de l'époque. Souvent, vous voyez qu'il y avait des scandales parallèlement, qu'il y avait des affaires très importantes parallèlement. Ça vous donne un contexte. Donc, ce contexte-là, on va aller le chercher. Donc, dans un dossier comme le vôtre, il faut aller chercher le contexte. Mmh. Parce que c'est dans le contexte que vous allez trouver les personnes qui peuvent vous parler.
Corinne Hermant a su parler à mon cœur d'historienne du dimanche car il y a une idée autour de laquelle je tourne depuis un moment. La région militaire dans laquelle se trouvait mon père était commandée par un certain Chadli Benjedid, qui est devenu par la suite président de l'Algérie. À l'époque, il était assisté du commandant Belkhair, sous l'ordre duquel travaillaient les élèves officiers comme mon père. Et un des témoins que j'ai contacté a attiré mon attention sur ce commandant.
Ce personnage, c'est le personnage le plus noir de l'histoire de l'Algérie.
Mais c'était l'âme damnée de Chadli Benjedid, en fait.
Oui, en même temps, c'était son maître à penser. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a fait Chadli. Hein. Et donc, Belkhair, avec son beau-frère, qui était le président de PDG de... l'office algérien, l'OAIC, l'office inter, des céréales. C'était lui qui était chargé d'importer, parce que l'essentiel était importé. On produisait même pas le quart de ce que consommaient les Algériens.
Les Algériens, ouais.
Il faut vous dire que l'Algérie socialiste est morte avec le président Boumédienne. Son successeur, Chadli Benjedid, premier président algérien à se déplacer aux États-Unis, a résolument choisi la voie d'une économie de marché basée sur la corruption. Ce fut la fin des années boom.
Il n'y a pas une tonne de blé qui arrive en Algérie sans que 10 dollars ne tombent dans la poche de M. Belkhair.
J'ai du mal à faire le lien entre la petite exploitation agricole, enfin, ou moyenne exploitation.
Eh bien, il a fait ses armes-là. Parce qu'effectivement, quand il était à Oran, il ne s'occupait que de ça.
Je ne dis pas que Chadli Benjedid et Larbi Belkhair ont tué mon père. Mais il me paraît envisageable qu'il ait été victime d'un système qu'ils avaient mis en place localement et qu'ils ont étendu ensuite à tout un pays. Mais en dehors de ce contexte, Corinne Hermant avait des conseils plus précis à me donner.
Je pense que si on localise à peu près les lieux, si on sait à peu près où ça a pu se passer, dans quel contexte, déjà c'est de rencontrer les anciens, ceux qui ont plus rien, ceux qui risquent plus rien quelque part, parce qu'ils ont 80 ans, parce qu'ils ont 70 ans, que déjà ils sont contents d'être arrivés jusque-là et que finalement ils craignent pas forcément pour leur famille ou ils craignent plus, ils connaissent tellement la chanson. Donc les anciens, d'aller voir un peu les anciens, ce qui s'est dit chez les anciens. Il y a ce qui est faux, ce qui est vrai, mais au moins il y a quelque chose. Mmh. Déjà d'aller voir ces gens-là, on peut trouver un fil à tirer.
Alors ça c'est facile, un ancien sur les lieux, je n'en connais qu'un. Il s'agit de l'ancien collègue et comptable de mon père. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a soutenu que mon père était soit mort d'une crise cardiaque, soit mort d'un suicide. Comme je ne le crois pas, je suis retournée le voir pour tirer les choses au clair.
Mais moi, j'ai l'impression que tu m'as pas tout dit. Qu'est-ce que tu dis en français?
Qu'est-ce que je veux te dire?
Ben, je sais pas, j'ai l'impression que tu sais quelque chose que tu veux que
non, tu ne dis pas.
D'accord, mais bon, tu vois, s'il est mort assassiné, moi je suis sûre qu'il y a des... que vous en avez parlé ici, qu'il y a eu des choses qui ont transpiré.
Avec l'armée, personne. C'est confidentiel.
Je sais bien que c'est confidentiel, mais tu sais bien que dans tous les secrets, il y a toujours quelque chose qui passe. Un secret, il n'est jamais gardé complètement.
C'était un civil. Je suis avec toi. Mais lorsqu'il y a un militaire, même s'il y a un secret, personne ne le dévoile. On ne peut pas dévoiler un secret. Il était assassiné au mort naturel.
Alors, aujourd'hui, tu dirais que tu ne sais pas s'il a été assassiné au mort naturel.
C'est-à-dire qu'il n'avait pas des ennemis.
Bah, sauf s'il voulait dénoncer des...
Qu'est-ce qu'il va dénoncer ?
Détournements.
Il n'y avait pas... On cultivait des pommes de terre, des carottes. Qu'est-ce qu'il va... Détournement de carottes.
Mais peut-être que toi, tu n'étais pas au courant.
J'étais le comptable qui va... J'étais pas au courant.
Bon, alors, regarde.
Il n'y avait pas d'être.
Regarde. Essaye de regarder l'histoire de l'extérieur un petit peu, comme si tu n'étais pas dedans. Il y a un mec qui rentre chez lui, qui dit autour de lui que là où il travaille, il y a des magouilles. Et quelques jours plus tard, on le retrouve mort dans sa maison.
Non.
Et alors, toi, tu penses que vraiment, ça, c'est une pure coïncidence. C'est-à-dire que d'abord, il ment, donc il raconte n'importe quoi, et ensuite, il meurt par accident. C'est ça que tu dis?
Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas.
Bon, écoute, tant pis. Tant pis. Je sais pas grave, je reviendrai de là. Je me dis que peut-être un jour, pour soulager ta conscience, tu me diras.
Tu penses toujours que ton père a été assassiné?
Ah, mais c'est pas que je pense que mon père a été assassiné. Mon père a été assassiné.
Il n'a pas été assassiné.
Salut. Merci pour tout, hein. Merci.
Après cette parfaite démonstration de mauvaise foi, je suis restée dans le village de Bousfer encore 2 jours pour essayer de rencontrer d'autres anciens, plus coopératifs. Sans succès.
Je fumerais bien une clope, moi.
Heureusement, Corinne Herman avait d'autres suggestions à me faire.
Il y a à comprendre les rouages de cette justice et de cette justice militaire. Et savoir quelles sont les archives, où est-ce qu'elles peuvent être, est-ce qu'on peut y avoir accès, ça c'est plutôt effectivement des avocats qui peuvent le dire. Ou rencontrer quelqu'un qui est à la retraite, qui travaillait pour ces institutions-là, et qui peut dire oui, parce que les gens qui travaillent dans l'institution que vous visez, ils connaissent les petits trucs.
J'ai donc fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je suis allée voir un avocat.
Dites-moi pourquoi vous venez me voir.
Maître Brahimi est un avocat spécialisé dans les droits de l'homme et il est également connu pour être proche des cercles du pouvoir. En ce qui concerne la manière dont la justice militaire fonctionne dans ce pays, je crois que je peux lui faire confiance.
Et j'aimerais faire une démarche auprès de l'État.
C'était en 1975.
C'était en 1975.
Vous n'aurez aucun résultat.
Ah bon ?
1975, c'est largement prescrit. S'il existe un dossier, il est archivé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas accéder au dossier.
Il n'y a aucune possible... C'est-à-dire que moi, je ne souhaite pas engager des poursuites ou quoi que ce soit. Je souhaite juste consulter ce dossier.
Vous ne pouvez rien faire.
Rien du tout.
Rigoureusement rien. Quiconque vous dira le contraire.
D'accord.
Sauf ce qu'on appelle un élément nouveau qui interviendrait et encore. On vous répondrait par la prescription.
Même pour une simple consultation du dossier?
Il n'y a plus de dossier, il est archivé, ils ne pourront même pas le retrouver. Parce que même si on découvrait qu'il a été assassiné, c'est prescrit.
Oui, mais ça, je m'en doute bien, mais peu importe.
Je voudrais savoir.
Je voudrais savoir, c'est tout.
Vous ne pouvez pas. Vous pensez bien, si l'instruction militaire n'a abouti à rien, comment vous pourriez aboutir à quoi que ce soit? Le problème, c'est que je ne peux rien... En tout cas, à moins que vous ayez des connaissances dans l'armée de haut niveau.
Malheureusement,
non. Bonsoir dans le Ralais, à Mas El Kébir, qui pourrait sortir le dossier des archives.
Vous croyez qu'il existe encore
archivé,
ce dossier? Ah, il a pas
non,
pu.
Non,
ils n'ont pas pu le détruire.
Mais personne ne peut le sortir. Gosset n'existe plus juridiquement. Il existe physiquement.
D'accord.
Il est archivé.
D'accord. Ben, c'est rageant quand même de savoir qu'il existe, mais que je ne peux pas y avoir accès.
Les gens qui travaillent dans l'institution que vous visez, ils connaissent les petits trucs. Quand vous allez voir quelqu'un qui a travaillé dans une administration, il vous dit, oh, alors, chez nous, ça se passe comme ça. Et voilà, vous racontez une toute petite histoire qui était Holm, donc ce n'est pas n'importe quel tueur. Et le jour du meurtre...
Francis Holm.
Oui, Francis Holm, le jour du meurtre d'Aline Pérez, sur la plage du côté de Brest, il est normalement hospitalisé. Donc, on a sa température sur sa fiche de température, donc il a un alibi inébranlable. Et en fait, quand l'enquêteur va revenir beaucoup plus tard, en pensant quand même que c'est lui, et en ayant mis en place tout ce qu'il fallait pour, en tout cas, vérifier ce qu'il avait fait, parce qu'il disait des choses particulières, il n'empêche que quand il va revenir dans cet hôpital, pour toute autre chose, il va rencontrer des infirmières, et il va voir une pratique, ou en tout cas, il va être informé d'une pratique qui était que lorsque le malade n'était pas dans sa chambre, on mettait automatiquement la température du jour d'avant. Donc, d'accord. On ne prenait pas la température. Si le malade n'était pas là, on inscrivait quelque chose sur la fiche. Ce qui est totalement fautif, mais évidemment, personne ne va vous le dire tout de suite. S'il n'était pas là, il y avait une température. Il était à 80 km de là, il commettait le meurtre. Donc, si quelqu'un... Il n'y a que les gens, pour expliquer qu'il n'y a que les gens qui travaillent dans un cadre, qui peuvent vous dire, à l'époque, ça se passait comme ça. Vous pouvez peut-être regarder tel côté pour trouver un élément.
Alors, trouver un retraité de l'institution quand ladite institution est l'armée nationale populaire d'Algérie, c'est pas la chose la plus facile à faire. Pourtant, après des mois de recherche et l'aide d'une amie que je ne remercierai jamais assez, j'ai réussi à parler à un capitaine à la retraite.
Mais j'aimerais bien vous aider parce qu'on se sent 15 ans. On se sent 15, je venais à peine, j'étais plus jeune, voilà, dans l'armée, mais je pouvais accéder quand vous m'expliquerez un peu. Est-ce qu'il est mort d'un accident ou il est mort de mort naturelle?
Justement, c'est ça qu'on ne sait pas. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir le dossier.
Est-ce que vous pourrez facilement faire des recherches à Oran? Parce que je connais pas mal de... Moi-même, je suis de Oranie, donc je vais souvent là-bas.
Ah, d'accord, formidable.
Donc, je vous avais attiré quand ça sera pas.
Bah, dites-moi et puis je viendrai vous voir.
Au revoir.
Quand le capitaine D est venu à Paris, nous nous sommes rencontrés au cercle de l'armée française, place Saint-Augustin. Le menu était succulent, le personnel lui donnait du général. Et nous nous sommes quittés, les meilleurs amis du monde, en nous tutoyant. Je ne sais pas si ce général capitaine a dit vrai, mais en tous les cas, il m'a promis de se renseigner sur la mort de mon père.
D'accord. Le copain qui était juge à l'époque,
ouais.
il était juge militaire, quand on était à la retraite. Et je me dis, oui, il me semble qu'effectivement, il n'est pas mort d'une crise cardiaque. C'est ça que le juge à l'époque, le procureur à l'époque avait demandé une contre expertise. Et il y avait des archives qui ont été transférées à l'hôpital, le nouvel hôpital, et on n'arrive pas à trouver. J'ai chargé un ami à moi, le directeur actuellement.
Ouais.
Il m'a dit, les archives, bon, gros, 10 ans, on les détruit, mais c'est possible qu'il y a une partie de l'archive qui restait au fond. Donc il a mis un militaire là, pas un archiviste, il a mis un militaire en train de fouiller. Donc c'est dans une cave, mal fichu, tu vois, c'est même pas microfilmé et tout. Voilà.
D'accord.
Des rapports, sur les rapports médicaux, tu vois.
D'accord. En fait, tu cherches alors, le rapport d'autopsie, en fait.
Que ça va aboutir, alors on attend.
Et donc,
il y a un rapport d'autopsie, quelque chose qui a été
fait. Il
y a
un rapport d'autopsie.
Parce que là, c'est mon point fort.
Mais ouais, mais alors ça, j'arrive pas à le. Il est dans le dossier.
Normalement, les rapports d'autopsie, celui qui fait l'autopsie, il garde un double du rapport.
Ben ouais. Alors lui, je le cherche. Apparemment, en plus, il vit en France aujourd'hui, mais j'arrive pas à le retrouver.
Ah, le médecin.
Le médecin qui a fait l'autopsie.
Et là, ça va faire un appel là-dessus.
Il est en Bretagne, mais.
Il fait un appel là-dessus.
Mais un appel, je sais
bah,
pas.
Via comment. Les médias, hein. Il n'y a pas d'autre chose.
Ouais. C'est compliqué d'intéresser les médias à un appel pour une histoire qui s'est passée il y a 40 ans ailleurs, quoi.
Ouais. Ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir.
Ce n'est qu'après cette conversation que j'ai réalisé que les médias, c'est moi. Alors voici mon appel à témoins. Si vous avez la moindre idée de la manière dont je pourrais rencontrer le docteur Brahim Askar, né le 25 février 1943 à Batna, n'hésitez pas à me joindre. N'hésitez pas à le faire si vous pouvez m'aider en quoi que ce soit dans cette enquête, d'ailleurs. Car vous l'aurez compris, je ne suis pas parvenue à découvrir la vérité sur la mort de mon père. C'est un peu pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai demandé à Corinne Hermant si ça valait toujours la peine de la chercher, cette vérité.
Je sais pas, hein. J'ai un gros questionnement actuellement sur le prix de la vérité. Je suis pas sûre qu'il faut la chercher toujours. Je commence à douter. Et on n'a jamais toute la vérité. On pense qu'on va l'avoir, on l'a pas, parce que le tueur parle pas, parce que ce qu'il dit c'est pour vous manipuler, etc. Parce qu'il reconnaît pas les faits, c'est très rarissime, parce qu'il va jamais s'excuser. Donc c'est un nouveau processus qui commence. Mm. Et quand on pense qu'on va avoir le nom du tueur, on pense qu'on va s'apaiser, mais non. La vérité, j'ai envie de dire, c'est... J'ai envie de dire un gros mot, mais c'est une saloperie en soi, hein, quand même. Quand vous établissez la vérité dans un dossier, eh bien, il y a aussi une autre famille en face. Il y a ceux qui n'avaient rien demandé, les enfants du ou des tueurs. Ça emmène des souffrances en série, ces meurtres qui n'ont pas été traités comme il fallait tout de suite. Le prix qu'il faut payer pour avoir la vérité, et le prix de la vérité quand elle est connue, ben c'est cher. Hein.
Je me suis dit que c'était sans doute pour ça que c'était si difficile d'obtenir la vérité en Algérie. Il y a tant de victimes et tant d'assassins, ou plutôt tant d'enfants d'assassins et tant d'enfants de victimes. Et tous ces gens doivent continuer à vivre ensemble. Et comme pour ma mère et ma grand-mère, ce n'est pas à moi de décider s'ils doivent se pardonner ou non. Mon enquête se termine ici. Je conçois que ce soit frustrant pour vous, et je vous promets de vous tenir au courant si j'ai du nouveau. Mais pour moi, il est temps d'arrêter de me retourner sur le passé et de regarder devant moi. Je vais faire comme ma mère, comme mon père Richard avant moi, comme on fait tous, ou presque. À défaut de réparer une quelconque injustice ou de sauver le monde, je vais me sauver moi-même. Car si je suis partie avec l'idée de faire une enquête criminelle et surtout pas une quête personnelle, je dois bien le reconnaître, Sigmund Freud a triomphé d'Hercule Poirot. Et ce n'est certainement pas un hasard si, en revenant de mon dernier voyage, m'est venue pour la première fois de ma vie l'envie d'avoir un enfant. Mais ça, c'est une autre histoire.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Mes Années Boom, le dernier épisode de cette série, épilogue 3, épisode 10. Donc, une série spécialement dédiée, je le précise, à Elsa et à Darwin, signée Adila Benedjaizou et réalisée par Cécile Lafont. Merci à Corinne Herman, à Sandrine Chaperon et à Céline Autin, c'est notre stagiaire.